bonsoir tout le monde. Je sais pas s'il y a du son. Toutes mes affaires sont fuckées de mon bord, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. On salue aussi ceux qui nous écoutent en audio, en différé, avec cette belle introduction de zizanie et confusion. Hey, bon lundi tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour cette semaine. Moi, de mon côté, toujours malade. Je suis en train de me demander si j'ai pas attrapé la COVID longue. Quasiment, je suis toujours à bout de souffle. Il y a un mal de gorge depuis 3 semaines. Mais bon, c'est pas grave parce que les dernières semaines ont été très occupées. Parce que cette semaine, c'est le WEG. Donc, pour ceux qui sont familiers avec tout le lore de Feu Rétro Nouveau, le WEG, c'est le Weekend Gaming. Donc, c'est notre week-end où est-ce qu'on va jouer avec des amis. Et puis là, je suis en mode patcher les problèmes de dernière minute pour être capable de survivre. Et me rendre au WEG. Mais c'est pas grave. Ça va bien aller. On va être capable sûrement de survivre à ça. Sinon aussi, ben de la job. Donc, ce soir, je sais que je le dis souvent, mais je pense que ça va être un petit show. Ça va être un petit show un peu moins impacté que d'habitude, un peu moins long. Mais c'est pas grave parce que ceux qui nous écoutent en direct, je vais quand même continuer après la diffusion. On va jouer à des jeux vidéo, hein? Parce qu'on est sur Twitch, c'est le fun de jouer à des jeux vidéo. Et puis, pour ceux qui l'écoutent live aussi, demain, on va faire une belle soirée spéciale pour les cassettes magiques. Donc, ça va valoir la peine d'être là. On va, je dis ça de même, mais ça se peut qu'on joue seulement au 32X. Parce que je joue jamais au 32X. Fait que ça va se faire là. Et alors, c'est ça. Ben, bref, cette semaine, pas énormément de trucs. Je suis comme un peu entre deux, là, donc je suis en préparatif de WEG. Je prépare mon corps à survivre à cet événement-là. Les brûlements d'estomac peuvent venir scraper tout ça. Alors, c'est bien important de se rafraîchir l'estomac avant le WEG parce que tu manges du gros manger, tu manges du bois de la boisson, tu veilles tard, tu fais pas beaucoup de sport. Fait que c'est important de se préparer à ça. Fait que cette semaine, on va prendre ce chill. Et on va commencer, je pensais que j'avais du housekeeping à faire. Ah ben oui, j'ai du housekeeping à faire, c'est vrai. Comme vous le savez, j'ai un site internet Fred Gémus, tout en un mot, .com. Alors si vous allez sur le site, vous avez accès dans le fond à toutes les plateformes auxquelles je participe. Très important à visiter, c'est très utile si vous voulez pas avoir à chercher des liens ou les sauvegarder. Il y a aussi une section aussi si vous voulez faire une contribution, donc payer un café, une bière, quelque chose, tout est là-dessus. Si vous êtes sur Twitch, don't be a lurker, vous pouvez, gênez-vous pas pour ajouter un follow. Si vous écoutez sur vos plateformes d'écoute, de balado, un petit 5 étoiles, ça aide beaucoup, toujours, ça fait plaisir. C'est gratis et puis ça aide beaucoup à la visibilité. Et puis, c'est ça. Cette semaine aussi, la semaine dernière, j'ai fait un petit spécial en vous présentant quelques trouvailles que j'avais faites, notamment dans une vente de garage, ainsi qu'à Fripp. Et puis, cette semaine, j'en ai pas. Donc, je fais souvent le commentaire comme quoi on trouve de moins en moins de choses. Et puis, c'est ça, cette semaine, ça en est la preuve. On est de retour en mode très slim. Donc, j'ai fait une seule trouvaille cette semaine et c'est un adaptateur de Switch. Fait que c'est ça. C'est pas ce que je vais faire avec, là. J'en ai déjà deux à la maison. Fait que ce sera ça. Mais bon, fait que comme je dis, on va y aller plus mollo ce soir. Et puis on va se concentrer sur le gaming post-show. Et là, ce soir, je voulais commencer ça avec un nouvel événement qui a eu lieu. La semaine passée. Qui est le Triple I Initiative, donc l'initiative du Triple I, une espèce de jeu de mots sur le Triple A, donc le Triple I, parce qu'en fait, c'est des studios indie qui ont décidé de se regrouper et de faire un genre de Nintendo Direct, mais tu sais, sans passer par les majors Nintendo et compagnie. Donc, faire ça eux-mêmes, avec tous les regroupements de plusieurs studios. Donc, c'est une initiative qui vient de Evil Empire, qui sont les développeurs, dans le fond, de tout ce qui est Dead Cells, ainsi que les gars de Relogic, ceux qui font Terraria, et Megacrit, qui font l'excellent Slay the Spire. Donc, l'idée était de pouvoir donner justement une plateforme et créer un événement sans devoir passer par, par Steam, passer par Nintendo, bref. C'est une belle idée et puis il y a eu des très 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 belles annonces qu'on va regarder ensemble. Moi, celle-là, évidemment, je ne vais pas faire le tour parce que quand il y a des showcases indie comme ça, il y a souvent une tonne et une tonne de jeux. Et puis, il y en a vraiment... Moi, quand il y a comme plus que 10 annonces, là, je me mets à tout oublier. Et puis, je l'ai regardé. Et puis, des fois, tout ça devient confus dans ma tête. Mais j'ai quand même pris des notes sur le fly quand je le regardais pour justement spotter qu'est-ce que je trouvais qui était vraiment intéressant. D'ailleurs, un très beau logo. C'est comme des i qui deviennent des points d'exclamation. C'est clever en s'il vous plaît. Alors là, on va y aller avec les annonces les plus funky. Donc, je me suis mêlé. En fait, non, c'est pas vrai. Une annonce surprise, en fait. Evil Empire, les créateurs de Dead Cells, qui travaillent avec le gros U. Donc, français avec français. Travaillent pour Ubisoft et font The Rogue Prince of Persia. Donc, un espèce de spin-off de Prince of Persia, mais mélangé avec des éléments de Rogue, comme Dead Cells, finalement. Donc, imaginez-vous à un Dead Cells Sasson avec beaucoup plus de platforming. Donc, pour de vrai, c'est ce qu'on appelle une surprise. Donc, ça valait ça tout seul, ça valait un showcase juste pour présenter ça. Hey, salut Tony Biz! Comment ça va, man? Et puis, ben c'est ça. Fait que surtout après le succès de Prince of Persia The Lost Crown qui vient de sortir, que je n'ai pas encore joué d'ailleurs, les cyniques diront que c'est parce que j'attends qu'il soit en spécial, mais la réalité, c'est que j'aurais pas le temps d'y jouer autant. Moi, j'aime ça me concentrer sur un gros jeu à la fois, donc bientôt, je vais y jouer. Mais celui-là semble beaucoup plus comestible, ou du moins digeste, en étant une expérience rogue, donc on s'attend à des... un jeu qu'on prend des bouchées, qu'on se rend le plus loin possible et qu'on recommence. Et évidemment, donc, la boucle des rogues fait en sorte que, c'est ça. Dès qu'on meurt, on recommence du début, mais on garde toujours un peu de progression. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer avec ce jeu-là. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comme le style visuel. Il y a un style visuel, là, bon, ceux qui regardent live en ce moment peuvent le voir en audio, c'est une autre affaire. Mais c'est comme... ça me fait penser quasiment à des livres « Où est Charlie? » Donc, c'est très... style dessin, c'est très clean, très propre, mais c'est très naïf aussi comme ça. Donc, très curieux de voir ça, bien, bien content de savoir en fait que Ubisoft a décidé de faire de quoi avec Prince of Persia, puis de vraiment comme se concentrer sur les forces de la série qui sont le platforming. Salut Alex Poulou Québec, yes, moi j'attends qu'il sorte sur Game Pass. Ouais, effectivement, ça, Prince of Persia The Lost Crown doit être en voie de tomber sur le Game Pass, I guess, mais bon. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Tony Biz dit c'est au tour de Prince of Persia de se faire milquer. Ben écoute, se faire milquer de la sorte, moi je pense que c'est respectable tant que c'est pas... tu sais, je pense que pour le moment, les deux jeux qui sont annoncés, ben le jeu qui est sorti cette année et celui-ci, pour moi ça me semble être deux trucs très compétents. Alors très content que quand même... de toute façon, ça sortira pas demain. Là, la date, j'ai pas marqué c'était quand, mais bon. C'est à voir. Très intéressant. Hey, yo, Mr. Nadera, content de t'avoir parmi nous. Et on va continuer avec une autre annonce qui, là, on tombe vraiment dans le champ gauche. Et puis, à la limite de qu'est-ce qui est indie, qu'est-ce qui n'est pas indie, avec, bon, Vampire Survivors qui s'en vient sur PlayStation 5. Donc, évidemment, les amateurs du gros taco blanc seront contents. Mais c'était pas une annonce qui venait toute seule. C'était une annonce qui venait avec la surprise qu'il allait y avoir une extension DLC Contra pour Vampire Survivors. Fait que, let that sink. Donc, voilà, Bill, Lance, je sais plus trop c'est quoi leur nom. Ben, ils s'en viennent dans le Vampire Survivors avec tout un arsenal de guns. Donc, ça va être, ma foi... une très bonne idée. Tu sais, on pourrait penser de prime abord que, hey, why not Castlevania? Mais bon, moi, je trouve que c'est une meilleure idée Contra parce que ça va être probablement plus rigolo de poivrer des grosses affaires partout. Et puis, ceux qui le voient à l'écran en ce moment, là, et qui l'écoutent en vidéo, voient qu'en fait, il y a même des ennemis de Contra qui sont là. C'est puis des niveaux. Donc, c'est pas juste comme des bonhommes de Contra avec des guns de Contra. C'est toute la gang. Et aussi, attends un peu, grosse surprise, le gros reveal à la fin de la bande-annonce, c'est que on va pouvoir jouer avec le loup-garou de Contra, Hard Corps, comme un personnage jouable, Brad Fang. Comme si Brad Fang était comme le fan favorite qui manquait depuis toujours de toutes ces années-là. Et dans la même lignée, et là si tu te dis, ben là, pourquoi c'est pas Castlevania qui s'en va dans Vampire Survivors? C'est parce que Castlevania, lui, s'en va dans V Rising. Un jeu que je connaissais pas, qui, ma foi, a pas l'air tant intéressant que ça. C'est un genre de co-op survival game. Donc, un jeu de survie où est-ce qu'on doit accomplir des machins et trucs en gang. Mais surtout, avec des vampires. Je suis pas trop. Je suis vraiment pas du tout familier avec ce jeu-là. Mais bon, ça semblerait qu'il y a quand même un assez gros following. Alors, un jeu de vampires comme ça, ça fait du sens que. Ben, Alucard puis toutes les belles mondes se pointent la face là-dedans, la fraise là-dedans, mais bon. Est-ce que je vais y jouer? Non. Un jeu, par contre, que je vais sûrement vouloir jouer, c'est Slay the Spire 2. Donc, ceux qui n'ont jamais joué à Slay the Spire, c'est un roguelike encore, mais avec un jeu de cartes. Donc, c'est un jeu vraiment de cartes super simple, mais très deep, donc d'approche, dans lequel on fait des combats... on récolte des cartes au fur et à mesure qu'on fait des combats. Quand on gagne les combats, on a des choix, des chemins qu'on veut emprunter. Il y a des chemins qui nous donnent des récompenses. Il y a des chemins qui peuvent nous amener à des challenges plus difficiles. Et puis, quand on meurt, on perd tout notre deck et il faut le refaire. Donc, évidemment, c'est question de il faut que tu balances ton deck puis tu essaies de justement trouver des bonnes cartes assez vite et puis jouer selon... prendre des risques selon qu'est-ce que tu as en main. Et tu sais, des fois, ça peut valoir la peine de prendre des chemins plus courts qui sont plus dangereux. Mais bon, je suis pas un gros fan de ce genre de jeu-là, mais pour vrai, ça, j'ai beaucoup aimé le premier. Mais, un jeu dans lequel je suis beaucoup plus genre de fan, si c'est mal dit ce que je viens de dire. Un jeu que j'avais aucune idée de l'existence et tout. Kill Knight. Des fois, il y a des noms de jeux comme ça que tu dis, Chris, c'est un pas pire nom. Kill Knight, le tuer chevalier ou tu chevalier, le chevalier tueur, j'imagine. Je sais pas trop, mais bon. Un esti de bon nom et un jeu qui a l'air pas piqué des verres. Un espèce de twin stick shooter dans lequel on incarne un genre de chevalier tiré d'une pochette de métal avec des swords et des guns, et puis tu poivres des masses et des masses d'ennemis. Moi, ça me parle. Il y a quelque chose là-dedans, dans cette bande-annonce-là, que quand je vois Kill Knight, vous regarderez ça, mettez ça sur vos wishlists. Ça a l'air quand même assez cool. J'ai l'impression qu'on va en parler, parce qu'il y a un petit côté shmup, il y a un côté twin stick shooter, il y a un côté qui rappelle quasiment Vampire Survivors. Donc, pour moi, ça, c'est sur ma liste à surveiller. Et dans la liste que je le mets juste ici pour le kick, un jeu qui s'appelle Dino Lords. Et ça, je vais pas vous mentir, je vais pas y jouer, mais je trouvais ça très drôle. Dino Lords, c'est un genre de survival qui ressemble un peu à la présentation de Age of Empires, donc en vue isométrique, assez loin. On se construit des petits villages et tout, des forteresses, donc c'est vraiment... C'est comme... Ça a l'air d'être un RTS, donc un jeu de real-time strategy, mélangé avec du survival, du building et tout. À la nuance près que les combats se font avec des dinosaures. Donc, quand l'ennemi arrive à nos portes, ça se peut qu'il arrive avec un ankylosaure et que celui-ci donne des coups de queue pour décalisser ta forteresse. Ou encore ou avec des T-Rex puis tout pour venir manger tes troupes. Fait que c'est ça. Moi, c'est sûr que quand il y a des dinosaures, je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est pas mon genre de jeu quand même. Mais bon, je voulais y faire un petit shout-out parce que je trouve ça drôle quand même d'avoir ça. Mais dans la catégorie que ça, je vais forcément y jouer. Il y a Undermine 2. Donc, le premier Undermine qui était un autre... Il y a juste des rogues à ce soir en passant. Hein. Les indies font juste des rogues visiblement. Mais Undermine 2, qui était un genre de Zelda slash avec un peu plus de creusage et tout, mais qui était comme, dans le fond, c'est ça, on se promène dans une mine, puis il fallait descendre de plus en plus creux, avec un gameplay vu de haut, un peu comme dans Zelda. Mais là, bon, la suite, on va pouvoir jouer à deux, des nouveaux bonus de pouvoir et tout. Donc, un jeu qui était fort plaisant, donc qui n'est pas si difficile que ça, mais qui est vraiment très bon. Et là, Montréalien dans le chat qui dit « Excuse, mais j'arrive à Age of Empires Dinosaurs. » Ouais, écoute, Dino Lords. Pas Dinosaur, Dino Lords. Donc, ça vaut... ça risque d'être intéressant pour vrai. Mais bon, je sais pas. Là, je parle de Undermine 2, pas de Dino Lords. Là. Dino Lords, je pense que ça va être ce que ça... Tout est dans le nom. Mais bon, je suis content de savoir que ça a déjà wishlisté. Très, très, très bon call. Et là, un autre jeu. On continue. Et là, une série que j'adore. What the Car, donc si vous avez joué à What the Bat ou encore à What the Golf, donc là c'est la je pense que c'est le troisième opus ou quatrième, je suis pas certain. Mais le même principe mais avec des chars. Donc là on est un char et puis là je dis même principe mais c'est pas un jeu de char visiblement. Donc on a, pour ceux qui voient les images, une voiture avec des pieds puis une voiture qui fait toutes sortes d'affaires sauf des courses de voiture. Donc un peu comme What the Bat, tu sais, c'était comme tu faisais pas nécessairement de baseball, mais tu utilises un bat de baseball pour faire différentes affaires. Et là, on dit Infernax 2, es-tu dans ton listing? Écoute, y a-tu un Infernax 2 qui a été annoncé puis j'ai manqué ça? On va vérifier ça. Ou si t'as un lien, envoie-moi ça, mon cher. Mais j'ai pas vu passer. Je ne crois pas que c'est arrivé sur mon écran de radar, ça. Moyen qui dit une bonne raison d'avoir Apple Arcade, ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de ces jeux-là qui se retrouvent souvent sur Apple Arcade. Donc, ça vaut effectivement la peine. Donc, celui-là, effectivement, c'est un Apple Arcade title. Je viens de voir pendant que tu le disais. Ah, OK. Ou de Tony, bon, c'est du Wishful Thinking. Donc, on répète, il n'y a pas de Infernax 2 en route. Donc, donc, arrêtez pas votre char pour aller appeler votre femme en ce moment si vous l'écoutez en podcast. Appelez votre douce, dis « Chérie, on vire de bord! Il faut aller chercher Infernax! » Il n'y en a pas de deux tout de suite. Mais bon. Hey, on s'en va sur le gros X pour toi, Eric, avec 33 Immortals. Un jeu qui n'était pas nécessairement sur mon écran radar, mais plus qu'on se rapproche de sa sortie, plus ça m'intéresse finalement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas 33 Immortals, c'est un jeu qui ressemble un peu, mettons, Hades, là. T'sais, c'est vraiment un jeu d'action hack and slash vu de haut. Mais la gimmick, c'est qu'on est dans un univers qui est partagé avec 32 autres joueurs, donc on est 33 au total. Et puis, on avance là-dedans et tout, jusqu'à un moment où est-ce que tout le monde se retrouve pour tapocher sur la même affaire. Donc, c'est vraiment le concept. En tout cas, du moins, c'est ce que je comprends du concept. Là, je sais qu'il y a un alpha bientôt, mais j'ai pas été invité. Fait que je ne sais pas ce qu'il y a dans ce jeu-là. Mais bref, ça a l'air d'être un jeu co-op assez cool. Et puis, l'aspect justement en ligne, tu sais, on voit souvent des Battle Royale où est-ce que... Tu sais, c'est comme, il faut qu'il reste juste un player à la fin, puis tout le monde meurt. Ben, tu sais, d'avoir un jeu justement comme ça, qui est beaucoup de joueurs, mais finalement, que ça finit coop, c'est quand même une très, très bonne idée. Alors, et puis, c'est fait à Montréal par la gang de chez Thunder Lotus. Fait que, encouragez ça, mettez ça sur vos wishlists. Puis, si vous êtes sur le gros monolithe du X, ben, sachez que c'est Microsoft, je pense, qui publie. Donc, c'est-tu Microsoft qui publie? En tout cas, il me semble que Thunder appartenait... Ouais, c'est ça. Il s'en vient sur Game Boy, sur Game Pass et Xbox Series X. Donc, on le voit à l'écran. Donc, checkez ça. Ça va être pas pire. Et sinon, finalement, je finis avec mon genre de jeu. Le First Person Shooter Mouse, qui est littéralement l'équivalent de Mickey Mouse avec avec une mitraillette. Donc, un jeu, un First Person Shooter... avec un style dessin animé des années de Steamboat Willie. Là, donc, un peu, imagine-toi, genre l'équivalent first-person shooter de Cuphead, mais en noir et blanc, avec des souris qui se font exploser à la tête. Donc, ça a vraiment l'air cool, ce jeu-là. Il y a quelque chose qui me parle. Là, ce qui est bien, c'est qu'on voit un peu plus de gameplay, puis le gameplay a l'air d'être quand même sa sauce. Donc, J'avais beaucoup aimé le dernier Boomer Shooter, celui de Warhammer 40K, le Bolt Gun. Donc, très content de voir que ce jeu-là aussi semble avoir des mécaniques quand même assez intéressantes et assez similaires, dont un grappin et tout. Donc, pas mal d'action. Alors voilà, il y avait beaucoup de jeux d'annoncer. Il y en avait, je pense, quasiment une trentaine. Donc, allez voir ça. Il y a une liste aussi sur Steam où est-ce que vous pouvez toutes les voir. Puis les wishlists, ça vaut la peine de wishlist ces jeux-là. Pour les développeurs indépendants, wishlist, c'est comme mettre attending à un party. Ça permet de voir ça permet de donner une idée aux développeurs de combien de personnes vont être intéressées par le jeu. Et bien évidemment, de se dire qu'il n'y en a pas la moitié qui va peut-être se pointer au party. Mais bon, wishlister, ça vaut la peine. C'est très utile et c'est très apprécié. Parce que quand un jeu va avoir plusieurs milliers de wishlists, ben là, des fois, les développeurs sont un petit peu plus confiants de pouvoir beurrer ça un petit peu mieux. Tu sais, tu te dis, si tout le monde se crisse de ton jeu, peut-être que tu vas le sortir un peu plus rough au plus vite pour passer à d'autres choses. Mais hey, si tout le monde wishlist puis tout le monde est très, 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 très excité par ton jeu, ah ben là, peut-être que ça va valoir la peine de mettre tes plus beaux escarpins puis t'assurer qu'il n'y ait pas de bug au launch puis que tout ça, en sachant très bien que tout ça sera bien reçu. Alors, Tony Biss me dit, est-ce que tu as essayé la patch 2 players? Tu parles sûrement de Infernax. Non, j'ai pas essayé, mais on va y jouer forcément au WEG ce week-end. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir du petit Infernax, malgré qu'on a des amis de chez Berserk qui vont être là. Je sais pas si ça va leur tenter de jouer à leur jeu. Moi, personnellement, ça me tente jamais de jouer à TMNT. J'ai beaucoup joué à TMNT, j'aime beaucoup TMNT, mais il me semble que ça me rappelle trop la job quand... Je joue à ça, ouais. Fait que je sais pas s'il va vouloir jouer avec nous. Mais peut-être. Qui sait? Qui sait? Hey, alors, on continue ça avec une autre nouvelle. Une nouvelle du type... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nintendo, qui ne sera pas de la Gamescom cette année. Donc, la Gamescom, si vous savez pas c'est quoi... C'est un événement qui a lieu, c'est l'équivalent de l'E3, mais qui a lieu à la fin de l'été en Allemagne, dans la ville de Cologne. Donc, et puis, c'est probablement le plus gros salon du jeu vidéo qui est au monde. Je pense que c'est plus gros que l'E3 techniquement en termes de grosseur. Et l'attrait de la Gamescom, c'est que c'est ouvert au public aussi. Donc, ça dure 4 jours. Et puis, c'est ça. Moi, je suis allé. J'en avais parlé à Rétro Nouveau. Si vous regardez mon TikTok, j'ai fait un petit TikTok aussi là-bas pour donner une petite idée. C'était pas mal cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Je suis allé en 2023. Et 2023, c'est ça. T'sais, c'était une belle année, mais c'était aussi l'année où est-ce que tout le monde disait que, hey, behind the scene, Nintendo, ils ont montré des démos de la Switch 2. Puis là, il y avait cette rumeur-là qui courait et tout. Alors là, moi, je suis pas sous aucun contrat. Là, j'ai pas le Marvel Sniper qui me regarde. Moi, j'ai pas vu de Switch 2. Mais ça se peut que Nintendo m'ait pas invité. Ça se peut, ça se peut. Puis j'ai pas entendu personne parler de la Switch 2. Ça se peut, ça se peut. Ça se peut qu'il y en avait. Ça se peut qu'on n'était pas invité et qu'on n'était pas cool. Mais là, les gens, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait, il y avait une Switch 2, puis qu'il y avait des démons, puis qu'il y a des gens qui avaient vu des choses. Comme d'habitude. Mais là, cette année, guess what? Nintendo ne sont même pas à la Gamescom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nintendo, si vous avez remarqué, la calendrier, la feuille de sortie de Nintendo en ce moment n'est pas énorme. En fait, je pense pas que je pourrais vous nommer c'est quoi le prochain gros jeu de Switch qui sort. Il doit y avoir des Pokémon puis des Fire Emblem à quelque part là-dedans, mais tu sais, il n'y a pas de nouveau Mario d'annoncé, de nouveau Zelda, de nouveau Donkey Kong, là, je sais pas trop. Là. Il manque. Il y a un remake de Paper Mario qui s'en vient, mais bref, il n'y a pas de sortie immense. Puis tu sais, faire des salons comme ça, c'est gigantesque. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, est-ce que ça veut dire que Nintendo, cette année, Nintendo à Noël, sortiront pas grand-chose? Peut-être. Est-ce que Nintendo coupe un peu, ils ont pas de gros messages à donner? Assurément. Est-ce que c'est parce que tout ça s'en va sur Switch 2, puis là, il faut qu'ils se préparent pour faire un dernier sprint pour la Switch 2 qui sortira en 2025? Qui sait? Je peux pas vous dire. Mais là, évidemment, les gens pensent que vu que la Switch 2 aurait été repoussée, même si elle n'a même pas été annoncée, pour 2025, ben là, que dans le fond, Nintendo skipperait ce salon-là. Parce que, ben c'est ça, parce qu'ils ont rien à montrer aux développeurs. En même temps, s'il y avait une Switch 2, ça serait comme le temps d'aller recruter du monde. Mais bon, je sais pas. Et qui suis-je? Donc, c'est toute une. C'est quand même une nouvelle assez importante parce que, comme je vous dis, ça reste que économiquement, entretenir des salons comme ça, ça coûte une fortune. Et puis, perdre des gros morceaux comme ça, surtout en avance, ça peut faire mal parce que, ben, ça peut donner le goût à d'autres mondes de skipper aussi la Gamescom. Ça peut donner le goût aux gens de ne pas aller à la Gamescom tout simplement parce que c'est quand même un très grand événement touristique. Voilà. Donc, on va voir comment ça va se déballer en espérant que, avec toutes les mises à pied qu'il y a eu dans l'industrie cette année, puis les coupures, puis les mises à. Tu sais, les projets qui ont été mis à mort, est-ce que c'est le début de la fin pour la Gamescom, comme pour le 3? J'espère que non, parce que pour de vrai, on l'oublie, mais il y a un marché gigantesque en Europe, là, comme aussi gros qu'en Amérique du Nord, plus gros même. Donc, c'est important aussi, je pense, de puis, tu sais, c'est pas les mêmes jeux qu'on voit ici. Moi, quand je suis allé, j'étais surpris de voir un peu des jeux, des studios qui sont super big là-bas, qui font des jeux que, tu sais, peut-être qu'on parle un peu moins ici, qui sont moins notre truc, mais bon, tu sais, comme Farming Simulator, là-bas, c'est big en tabarnak, là. Fait que ça prenait un salon pour ça. Et Furious Angel, salut, man! Comment ça va? Le nouveau Metroid va bien finir par sortir un jour. Ben oui, écoute, ce sera pas cette année qu'il va être annoncé, j'ai l'impression, ou du moins pas avant la Gamescom. Mais bref, longue vie à la Gamescom et en espérant que ce sera pas juste. Ça va juste être Nintendo qui va tirer à plat, puis pas tout le monde. Et là, on continue avec des nouvelles de Marvel. Mais là, je les ferai pas longtemps mes nouvelles de Marvel parce que je sais qu'il y a juste moins souvent que ça fait. Ça fait triper. Mais cette semaine, il y avait. Ben en fait, la semaine dernière, il y avait le CinemaCon, qui est comme une grande convention pour le cinéma, dans le fond. C'est un peu comme l'E3 du cinéma, où est-ce que tous les studios viennent présenter les sorties, dans le fond, qui va y avoir lieu pour cette année, l'année prochaine. Tu sais, dans le fond, dans l'idée de flatter puis de chanter, de turlututer à l'oreille des diffuseurs en salle, donc d'avoir les grandes chaînes de cinéma s'exciter le poil pour les films de Warner Brothers et compagnie. Alors, il y avait CinemaCon. Demain, il y avait Disney, Marvel et compagnie. Attendez, je vais prendre une gorgée d'eau. J'ai comme mal dit gorgée. J'ai dit, je vais prendre une gorgée d'eau. Norman Marino. Est-ce que je t'ai entendu? Norman Marino sur TikTok. On revient dans Deadpool and Wolverine qui a, encore une fois, le costume de Wolverine n'arrête pas de fuiter sur la marchandise, les choses promotionnelles qui sortent. Alors, le costume, comment dire, parfait du tiré des bandes dessinées qu'il va y avoir dans le film. Alors, si vous voulez voir ça, ceux qui écoutent en audio, vous pouvez aller voir Deadpool and Wolverine Key Heart, en tout cas du moins pas Key Heart, mais un gobelet de cinéma avec un très très beau design. Et on apprenait aussi qu'il allait y avoir aussi un bucket à popcorn fait spécialement pour le film, un peu pour se moquer du bucket à popcorn du film Dune qui est sorti Dune 2, qui est sorti dernièrement. Hey, salut Tony Biz, merci d'avoir été là. Toujours cool de jaser avec toi pendant live. Bon retour au travail. Je sais que tu travailles le lundi. Alors, le break est fini. Fait que on se reparle, mon cher. Yes. Alors voilà, bref. Wolverine, si vous voulez voir son costume, vous pouvez voir sur Internet. Question de rester dans le Marvel et dans le MCU. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Pour parler des X-Men. Donc les X-Men, si vous écoutez pas encore les X-Men 97 sur Disney+, arrêtez de m'écouter et allez écouter ça maintenant. C'est extraordinaire. Donc j'en avais parlé à quel point cette série-là m'excitait et comment les premiers épisodes m'avaient satisfait. Mais là, la série va complètement ailleurs. Ceux qui ont écouté le dernier épisode, je vous invite à chercher, googler Info Suicide. Très difficile, dernier épisode. Les créateurs du show ont dit, dans le fond, que eux, leur ambition, c'était que la première partie de la saison, c'était comme pour les gens, comme quand on était dans les années 90, donc ceux qui ont grandi vraiment avec la naïveté des années 90. Et la deuxième partie de la saison, c'est les X-Men qui arrivent dans les temps modernes post 11 septembre, donc vraiment toutes les tragédies qui ont comme forgé les temps modernes d'aujourd'hui, donc tout après les attentats du 11 septembre, toutes les attentats, puis toute la réalité dure, crue du monde, donc on est vraiment plus du tout dans le ton du dessin animé. Mais écoutez ça pour vrai, c'est vraiment extraordinaire. Et dans la catégorie des autres choses extraordinaires que vous pouvez regarder sur vos multiples abonnements, il y a aussi l'excellente série de Fallout qui est sortie la semaine dernière. Donc, tous les épisodes sortis en même temps. Bang! D'une shot, jeudi passé. Et puis, souvent, quand tous les épisodes d'une série tombent en même temps, c'est que c'est pas super bon. Mais là, Fallout sur Amazon Prime, Colin, c'est bon. C'est vraiment super bon. La série se passe, en fait, après les événements de tous les jeux. Donc, y a comme des retours en arrière sur certains jeux. Il y a des fans, évidemment, qui ont chialé, qui ont dit qu'il y avait des affaires qui n'étaient pas canon. C'est pas tout à fait vrai, supposément, selon les créateurs du jeu. Mais bon, bref, j'ai pas fini d'écouter la série. Je vais sûrement partager mes impressions la semaine prochaine. Mais si vous aimez le jeu et surtout l'univers du jeu, c'est vraiment très bon. Petite mention, c'est du Amazon Prime donc, et c'est du Fallout. Donc souvent, Amazon Prime, les séries sont très violentes. Et Fallout, c'est particulièrement violent. Et oui, ils ont le skill de faire exploser les membres. Donc, c'est vraiment très, 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 très juteux comme série. Donc, si vous n'êtes pas fan de violence, ça va peut-être pas vous plaire. Sinon, le côté pince sans rire de Fallout est là. Le rythme de la série est un peu éparpillé. Des fois, il y a comme des longueurs. Des fois, c'est comme, hein? Ça va super vite. Mais bon, bref, c'est vraiment super bon. Alors, allez écouter ça au plus, s'il vous plaît. Et on termine avec une dernière nouvelle avant de passer aux questions. On sait maintenant qui va jouer Shadow, le hérisson, dans le film Sonic the Hedgehog 3. Keanu Reeves. Keanu Reeves va faire la voix du méchant hérisson, ou du moins celui qui le mécompris, Shadow. Donc, écoute, John Wick, Shadow the Hedgehog, même combat selon moi. Donc, deux ballerines du carnage. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Shadow the Hedgehog, c'est un personnage légendaire dans la série de Sonic qui est quand même assez aimé des fans, mais qui est littéralement Sonic avec des guns. ça m'a toujours fait rire. J'ai jamais assez joué au jeu de Shadow, mais bon. Quand même, comme je dis, c'est un personnage qui a des edgy là, de l'univers de Sonic que les fans aiment. Donc, je trouve ça super cool. Moi, j'aime beaucoup Keanu Reeves. Keanu Reeves, je trouve que il connaît c'est quoi son casting, c'est quoi ses limites. Puis il s'amuse avec ça, puis il est bien heureux. Et puis, je l'apprécie beaucoup. Donc, je suis très, très, très content de voir ça. Selon moi, ça fait plus de sens que Idris Elba qui joue Knuckles. Ça me fait toujours rire. Idris Elba qui était l'acteur un peu amer de tout son rôle dans le Marvel Cinematic Universe parce qu'il disait que oh, un petit rôle inutile, je suis poussé, évidemment. Puis finalement, il s'en va jouer Knuckle, puis il s'en va jouer une espèce de Go-Bot de Deadbolt, je me souviens plus exactement, dans le film de Suicide Squad. Fait que, bref, c'est un drôle de personnage, mais Keanu, on l'aime bien. Johnny Silverhand, ben oui, Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077. Donc, bref, plus de détails bientôt là-dessus. On devrait être probablement sur le bord d'avoir une bonne annonce parce que à CinemaCon, justement, il y avait des images qui ont été montrées du film. Des images avec Shadow, mais pas de voix. Donc, on sait maintenant pourquoi. C'est que j'imagine. Ben là, je dis, on sait que c'est Keanu Reeves. Les rumeurs disent que ça va être Keanu Reeves dans le sens qu'il y a plusieurs sources à Hollywood qui disent que ça va être Keanu Reeves. Donc, tu sais. D'après moi, le deal n'était pas signé encore, puis ils ont essayé de closer ça pour le CinemaCon, mais bon. J'imagine que vendredi, Keanu va aller faire des voix, puis on va être correct pour avoir une bande-annonce la semaine prochaine. Fait que voilà. Alors voilà, c'est ça pour les actualités. cette semaine. Et on continue avec les questions du public, vos questions. Je vous remercie beaucoup à tous ceux-là qui prennent le temps de poser des questions. C'est pas évident parce qu'on fait un show. Je fais un show à tous les lundis, à toutes les semaines. Fait que c'est, comme je disais tantôt, aujourd'hui ça va être un petit show parce que j'ai pas beaucoup de choses à parler à cause que j'étais trop occupé, puis j'ai pas eu le temps de finir des jeux, puis j'ai pas eu le temps de trop suivre tout ce qui se passait. Mais quand même, c'est à toutes les semaines. Fait que c'est beaucoup. C'est régulier. C'est très régulier. Puis moi, je trouve que c'est plus important d'être régulier que d'avoir des gros shows tout le temps. C'est plus payant pour vous d'avoir toujours un peu de contenu, même s'il n'y en a pas beaucoup cette semaine. Et puis, quand vous posez des questions, j'espère que les réponses, premièrement, sont intéressantes. Mais moi, ça m'aide beaucoup parce que des fois, ça me permet de trouver aussi des sujets et tout. Et puis, ça me donne du jus. Alors, vous collaborez comme ça, c'est très apprécié. C'est comme votre 5 étoiles sur Spotify me poser une question. Ça m'aide franchement beaucoup. Alors là, cette semaine, on part ça avec Zero Brand. Encore une fois, un guerrier qui pose une question à toutes les semaines. Merci beaucoup, l'ami. Crois-tu que le prix des jeux neufs sont bien, que les prix des jeux neufs sont bien justifiés? Devraient-ils être moins chers ou encore plus chers dû à l'inflation et les coûts de production? Et aussi, que penses-tu de l'argument qu'un jeu court ne devrait pas être le même prix qu'un jeu plus long? Ça, pour vrai... C'est difficile parce que, tu sais, moi, je me rappelle de la belle époque du Xbox 360 où est-ce que les jeux étaient 59,99. Tout était 59,99. Ça, là, c'était le meilleur moment pour être un gamer. C'était en 2006, 2005, 2006, 2007, 2008. Toutes les sorties, c'était comme 59,99. Le dollar canadien était pratiquement à parité avec le dollar US. Et puis les jeux... Mon, mes amis, coûtait rien. C'était extraordinaire. Mais, en plus aussi, tu sais, c'était comme la... On passait du PS2 au Xbox, tu sais, au PS3, dans le fond. Puis le jump faisait en sorte que les équipes grossissaient, mais pas trop. Sauf que, plus on avance dans le temps, plus les équipes grossissent. Tu sais, c'est quasiment... Pour un triple A, là, t'sais, pour un jeu comme un Assassin's Creed, un Uncharted ou encore t'sais, un Final Fantasy, je veux dire, c'est comme si pratiquement à toutes les générations, pour produire la même quantité de contenu, c'est comme si ça prenait quasiment le double du monde. Ben, pas toujours le double, mais t'sais, c'est quasiment exponentiel. Donc plus ça avance, plus ça grossit. Donc évidemment, ben, plus tu as de salaire à payer. Donc c'est sûr que ben, ça commence à coûter pas mal plus cher faire un jeu. Ensuite, ben là, les consoles nouvelle génération sont pas tout à fait là encore. Fait que là, des fois, tu sais, ben, il faut que ton jeu il supporte deux générations. Donc, ça demande encore plus de monde sur l'équipe pour supporter les deux générations. Mais tu sais, si tu le fais juste pour PlayStation 5, ou par exemple, ben là, tu te retrouves avec le risque de, ben, tu sais, ça va-tu se rentabiliser cette affaire-là? Fait que tu sais, tout ça pour dire qu'au final, ben, forcément. Un gros jeu triple A, ben, il devrait te coûter plus cher, tu sais. Fait que là, si on part de ce principe-là, de se dire, tu sais, ben, OK, écoute, les jeux vont être maintenant 100$, tu sais, ce qui est énorme quand même, là, c'est énorme. Ben, tu sais, à ce moment-là, je pense qu'on peut se permettre d'ouvrir la porte puis se dire, écoute, c'est quoi le coût réel de développement et la plus-value pour le joueur, tu sais. Moi, je pense que t'sais, si tu prends un jeu comme Dragon's Dogma 2, qui est quand même un jeu énorme, t'sais, la quête principale, c'est un avant-goût du jeu. Tout le jeu, il y a tellement d'exploration à faire après. T'sais, il y a plusieurs, il y a au moins peut-être facilement une cinquantaine d'heures dedans. T'sais. Est-ce qu'un jeu qui donne pour 50 heures de contenu devrait être le même prix qu'un jeu comme Uncharted que tu fais une fois et qui dure à peu près 8 heures? T'sais, Uncharted, encore une fois, une réalisation incroyable, tu sais, c'est vraiment super bien fait, c'est magnifique, tu sais, il y a pas de doute là-dessus. Par contre, ça reste que ben tu le payes plein prix et puis ben c'est ça, une fois qu'il est terminé Uncharted, est-ce que tu rejoues encore une fois Uncharted tout de suite? Est-ce que tu joues à d'autres choses? Est-ce que tu le revends? Ben c'est ça, tu sais, c'est pas clair. Donc évidemment, on pourrait commencer à penser que des jeux de longue haleine devraient peut-être coûter plus cher. C'est pour ça que beaucoup de, tu sais, le game as a service, là, les jeux, les jeux avec des Battle Pass, tu sais, les jeux comme Suicide Squad, où est-ce que... Ah, ben, quoi, tu vas payer 100$ pour le jeu, mais, tu sais, s'il y a beaucoup de contenu multijoueur, puis le contenu additionnel, tu sais, tu vas pouvoir en acheter, puis tu vas pouvoir acheter du cosmétique, puis acheter des choses. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on nous l'enfonce dans la gorge, c'est parce que le coût de développement de ces jeux-là, en fait, il est beaucoup... Faudrait que le jeu se vende beaucoup plus cher que ce qui se vendrait en ce moment. Donc, on essaie d'aller gratter les scènes d'une autre façon, un peu comme Dragon's Dogma, finalement. Dragon's Dogma qui devait être 94-99 à sa sortie, mais qui finalement il a rebaissé à 89-99. Et puis, mais avec plein de microtransactions ridicules, un petit peu décidées sur le coin d'une table. D'ailleurs, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures dans le jeu et les microtransactions sont clairement inutiles, mais quand même. Il est comme, ils sont là, au cas où quelqu'un les payerait, puis qu'on pourrait peut-être, tu sais, faire un peu plus d'argent. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je pense que on se rapproche d'un moment un peu... tu sais, au Super Nintendo, des fois, il y avait des jeux qui étaient comme super chers. D'ailleurs, tu sais, c'était comme... Il y avait une raison pourquoi c'était plus cher. C'est que les jeux comme Final Fantasy, qui avaient beaucoup de RAM, techniquement, il y avait plus de chips, si on veut, dans la cassette. Fait que techniquement, ça coûtait plus cher à faire. Alors, tu sais, ça fait partie un peu de la game. Oups. Attends un peu, j'entends pleurer en haut. Ok, je pense que c'est mon fils qui veut pas faire dodo. Mais bon, c'est pas grave, ma conjointe est avec lui. Peut-être qu'il va falloir que j'aie un petit coup de main. Mais c'est pas grave. Fait que bref, je pense que ce modèle-là est voué à changer. Tu sais, je pense que d'un côté, le joueur qui veut avoir une expérience complète sans DLC, sans microtransactions, sans cosmétiques, sans rien, sur un jeu de longue haleine, il va falloir que tu t'attendes à le payer plus cher, tu sais. Je pense qu'on est voué à ça pour toutes les raisons mentionnées, que ce soit l'inflation, la grosseur des équipes, les ventes qui sont peut-être pas nécessairement les mêmes qu'avant, parce que les prix montent évidemment. Fait que tu sais, je pense que pour ces gros jeux monstres-là, il faut accepter qu'on paye plus cher. T'sais. Sinon, il faut accepter que notre jeu tombe sur un modèle avec un Battle Pass, qui tombe sur un modèle avec beaucoup de microtransactions, avec du contenu payant, en espérant que ce soit du cosmétique, mais sinon il faut, je pense, accepter cette réalité-là que ben le jeu va être 89-99, mais il va y avoir beaucoup d'incitatifs aux gens pour justement, tu sais, comme cracher un autre 20$ de plus en bonnie de plus. En revanche, tu sais, les studios indépendants, pour eux, ça commence à être de moins en moins cher à faire des jeux, dans le sens que ben la technologie, tu sais, il y a beaucoup d'outils qui existent maintenant. Selon le genre de jeu que tu fais, tu sais, il y a moyen de... Ben, le coût de la vie monte pour tout le monde, mais tu sais, je veux dire, les techniques pour faire des jeux vidéo maintenant avec, mettons, Unreal et tout, permet à des plus petites équipes de faire des jeux quand même assez ambitieux. Tu sais, évidemment, tu ne vas pas la même qualité. Tu vas pas faire un jeu de Naughty Dog avec une équipe de 20 personnes, mais tu sais, peut-être que tu vas être capable de faire un jeu de Naughty Dog dans les années... PS3 avec cette équipe-là. Donc, ça peut... Il y a quand même ça qui permet aussi à des studios peut-être d'offrir des jeux un peu moins chers. Je pense que ça vaut la peine, surtout s'il y a de plus en plus de gros jeux qui coûtent cher, d'avoir des jeux un peu moins dispendieux. Mais tu sais, la réalité, c'est que comment on justifie aux joueurs? Tu sais, comment on justifie aux joueurs? Hey, regarde, Pokémon va te coûter 79,99, mais... Final Fantasy XVII va te coûter 109,99, mais genre le nouveau Turtle, lui, va te coûter genre 49,99. Tu sais, ça peut devenir un peu compliqué pour le joueur. Fait que tu sais, moi, j'y vais toujours avec mon calcul de ça coûte combien de la minute. Fait que tu sais, je pense qu'on pourrait, commencer à vendre les jeux avec une notif dessus, genre de ce jeu-là vaut 50 cents la minute. Ça peut être bon. Pas 50 cents la minute, pardon, 50 cents de l'heure. Mais bref. C'est un gros débat qui continue. Puis là, je vois King Nadera dans le chat qui dit « Aujourd'hui, 89,99, c'est la version de base. C'est pas rare des versions de luxe à 129,99. » Ben, c'est ça, tu sais. On essaie tranquillement de on sort le jeu direct avec un digital de luxe qui est comme, dans le fond, des costumes, des quêtes supplémentaires, des petits bonus comme ça qu'on donne pour essayer d'aller chercher le petit morceau d'argent qui manque. Donc, effectivement, c'est un bon point. tu sais, avant, un Deluxe Edition, un jeu Deluxe Edition, ça venait, ça coûtait 10$ de plus, tu avais une soundtrack, un petit artbook. Si ça coûtait plus cher que 10$ de plus, c'était parce que, genre, il y avait une figurine avec, il y avait des goodies super cool. Là, maintenant, il n'y en a plus de physique, puis c'est des Digital Deluxe avec des bonus supplémentaires de contenu. Fait que, avec ça, tu sais, c'est ça la réalité, c'est que tout coûte plus cher, tu sais. Chris, à l'épicerie, là, on nous faut gros comme le bras, là. Hey, les paquets de tortillas, ça coûte... ça coûtait 2,50$, 3$ avant, là, c'est rendu 6$ pour des tortillas, là, tu sais, je veux dire. C'est des slices, c'est des boules de farine effouérées, cuites, là. Tu sais, ça coûte à rien faire ça, là. C'est comme si... là, je dis ça coûte rien, puis c'est chiant à faire, mais faites vos tortillas, vous allez sauver beaucoup d'argent, visiblement. Ça prend quasiment juste de la farine, de l'eau, puis un peu de... en tout cas, bref, t'auras pas dans la cuisine, mais... mais c'est sûr que pour les jeux vidéo, le prix, je pense que c'est ça. On y va pour rester, malheureusement. Ben Landry Salvidrim demande « Quel est un petit détail, trivia, animation, référence, etc. que tu as introduit dans un jeu sur lequel tu as travaillé? Détail dont tu es super fier, mais qui a été peu ou pas discuté ou remarqué? » C'est une bonne question. J'ai essayé d'y penser pas mal à ça, Ben, justement, trouver des bons exemples. C'est drôle que tu dises animation parce que sur TMNT, je me suis permis de glisser quelques pixels, quelques pixels de mon gré dans certaines animations. Je l'ai pas, j'ai pas trouvé la vidéo vite vite. Mais notamment quand on avait fait la première version, le premier niveau du jeu, tu sais, comme en mode ce qu'on appelle à l'interne une vertical slice, là, juste pour montrer vraiment comme un morceau du jeu. J'avais fait un Foot Soldier, j'avais animé dans Photoshop pour rire, qui sortait d'un sac à poubelle qui déchirait. Et puis, ça avait été... les gens chez Nickelodeon avaient trouvé ça très drôle. Puis ils voulaient, faisant plus des choses comme ça. Puis pendant un bout de temps, on l'avait gardé. Puis finalement, l'animation qui est restée dans le jeu, c'est une animation qui est dérivée de mon animation. Donc, elle n'a pas été totalement refaite. Elle a été un peu améliorée, mais la base est encore là. Donc ça, je suis très, très, très content de mon sac à vidange qui se déchire. Sinon, un détail que je trouve vraiment drôle, qui... puis là, ça, c'est un easter egg qui est peut-être moins remarqué. Mais les gens, là, je te dirais, Turtle, là, il y a tellement de vidéos d'easter egg, là, ils ont tout trouvé. Ils ont tout trouvé, là. Mais un que j'aime beaucoup, c'est dans le 9e niveau. C'est-tu le 9e tableau? T'as un peu 8. Non, 10e, pardon. En tout cas, c'est celui... c'est-tu le 10e? Ah, est-ce que je suis maillé dans mes niveaux? Celui où est-ce qu'on a un magasin, un backstore de magasin d'électronique. Mais en tout cas, au début du niveau, il y a un easter egg, un petit caméo, une petite référence au cartoon, qui est une pizzeria qui s'appelle Weird Pizza To Go. Et puis ça c'est... je l'ai noté dans tous mes documents qu'il fallait avoir Weird Pizza To Go à quelque part dans le jeu. Et puis Steph, notre artiste, l'a mis là. Steph aussi, qui est un fan de Easter Egg, c'est lui qui a comme quasiment, avec Yannick, listé beaucoup de Easter Egg. Et puis le Weird Pizza To Go, dans le fond, c'est un épisode des Turtles que je trouve vraiment drôle. Où est-ce que Shredder décide que la meilleure façon pour trouver les Turtles, c'est d'ouvrir un restaurant de pizza. Une pizzeria qui fait des pizzas à toutes sortes de cochonneries, genre, tu sais, de la pizza, genre, anchois, ananas, des affaires la même. Et évidemment, il réussit à trouver la position du Turtle Lair comme ça. Puis je trouve tellement que c'est drôle que le meilleur plan de Shredder dans tout le cartoon, c'est Shredder qui se fait une PME, hein, qui s'ouvre un pizza Salvatore, puis qui réussit à trouver les Turtles. Je trouvais ça vraiment drôle. Je voulais absolument qu'on ait Weird Pizza To Go. C'est, il y avait beaucoup de petits deep dives comme ça qu'on avait dans les épisodes, là, que je voulais absolument mettre là-dedans. Hey, salut Froussis! Le bébé est couché, c'est l'heure du spectacle. Ben quin. Il se couche tard, ton bébé. Non, c'est pas vrai. Je fais des blagues. Mais oui, le moi aussi, je fais sur le dad schedule aussi. Là, à partir ça à 8h. Une fois que mon fils est couché. Mais là, comme je disais tantôt, je l'entends négocier avec ma blonde en haut. C'est un petit négocieux. Il est rendu à 3 ans et demi. Donc là, il fait toujours du trouble pour trouver des affaires. Sinon, une affaire que j'essaie de penser à des exemples de références slash easter egg toutes que j'ai mis dans un jeu qui n'ont pas été trouvés. Mon premier jeu que j'ai fait, Shaun White Snowboarding sur DS. Attends un petit peu, je pourrais vous trouver des beaux screenshots de ce jeu-là. Qui est un jeu... Oups, non, c'est pas comme ça, sur DS. Un jeu magnifique où est-ce qu'on a un jeu de snowboard. C'est mon premier jeu vidéo. Quelle misère. Mais on avait fait un secret dedans. Qui c'est qui joue à ça? DS Destruction is a project. Rien que jouer à ça au DS. Hey, crème, j'aurais dû l'encourager. Mais bref, un jeu dans lequel on pouvait customiser. J'étais tout fier de mon système de customization, de personnalisation des planches pour les stats et tout. Où est-ce qu'on pouvait mettre des collants, des décals dans le fond sur les planches. Puis on avait fait un petit sheet que selon. Si tu mettais certains décals précis, ça changeait la couleur de ta traînée, tu sais. De neige derrière. Là, quand tu glissais, ça faisait comme une trail en arrière. Puis on se trouvait tellement hot, on s'était dit que quelqu'un allait le découvrir et tout. Puis j'ai jamais vu personne en ligne trouver c'est quoi les combinaisons qu'on peut faire pour les collants. Je les ai jamais vus nulle part. Peut-être que... sont sortis maintenant, mais bref, même moi, je sais plus c'est quoi, parce qu'évidemment, la documentation est chez Ubisoft, puis je l'ai pas amené avec moi. Fait que c'est ça. Évidemment, il n'y a pas de... c'est un secret que j'ai peut-être amené avec moi dans la tombe, parce que moi-même, j'ai oublié c'était quoi. Sinon, des easter eggs, j'essaie de penser, mais tu sais, dans Panzer Paladin, c'est pas vraiment un easter egg, mais le concept du jeu de Panzer Paladin, c'est qu'on se promène un peu partout dans le monde, puis qu'on se bat avec des démons, et puis tous les démons sont inspirés un peu des éléments mythologiques là, de différentes cultures, différentes affaires. Puis il y en a quelques-uns qui sont quand même assez cool. Tu sais, il y a... on voit à l'écran Baba Yaga là, qui est aussi le nom de John Wick. Mais bon, Baba Yaga, que dans le fond, en fait, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que ces monstres-là sont tous inspirés d'éléments mythologiques, folkloriques et tout un peu là, qui relèvent du côté plus comme démoniaque là, de ces histoires-là, du folklore et tout. Et puis, toutes des créatures comme ça. Et puis, notamment, moi, j'avais des suggestions de quelques personnages de la part de Joe, Joe qui était notre directeur là-dessus. Mais aussi, tu sais, j'ai fait un peu de recherche et tout pour trouver justement des monstres qui pouvaient être le fun et tout. Et des mécaniques qui en venaient. Donc, Baba Yaga, c'était une sorcière qui était comme reconnue pour peut-être mettre des enfants dans son chaudron. Fait que j'avais fait comme une mécanique avec justement des chaudrons et tout. Puis bon, où est-ce qu'elle se dédouble, des compagnies. Là, il y avait comme des trucs par rapport à ça. Mais mon préféré, et ça me fait vraiment rire. Parce qu'ici, c'est pas... Personne connaît ça, mais t'as un peu... C'est Bwewig. Attends un petit peu. Oui. Je sais plus c'est comment le nom, là. J'essaie de le taper le nom, là, mais. Et Siro. Panzer Paladin. Ah, je peux pas vraiment le trouver. Là. C'est le gros bonhomme de neige géant là, dans le fond. Là. Ah, je l'ai ici. C'est Bwewig. Et qui, dans la culture je pense c'est en Finlande ou en Suède. Donc, Bwewig, en fait, c'est comme un gros bonhomme de neige qui construise, qui représente un peu toutes les choses mauvaises dans le coin. Puis c'est comme un bonhomme de neige gigantesque qui construise pour l'occasion. Mais il carbure, ils mettent des explosifs dedans, puis du branchage pour que ça brûle. Puis ils font exploser. Puis c'est comme, je me souviens plus exactement ce que ça représente et tout. Mais genre, j'avais joué des vidéos et ça me faisait tellement fucking rire d'un gros Christy de bonhomme de neige que tu fais exploser. Tu fais exploser un bonhomme de neige. Fait que tu sais, tout ce boss fight-là, ce combat de boss-là, je l'ai construit un peu autour d'une mécanique d'un boss qui se déconstruit puis qui revole en morceaux et tout. Donc, c'était vraiment inspiré de ça et ça me fait rire. Et d'ailleurs, si on regarde en ce moment... ceux qui le voient à l'écran, il y a quand même un screenshot du jeu. Il y a beaucoup... Sur Panzer Paladin, je dessinais comme des... pour les boss, je leur dessinais des frames d'animation pour aider les animateurs. Tu sais, pour montrer à peu près la grosseur de l'attaque, qu'est-ce que j'avais besoin et tout. Et puis sur Bwewig, là, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, ça semble vraiment un dessin que moi, j'ai fait. qui avait pas été trop trafiqué, justement, de Boeing qui donne un coup à terre et tout. Donc voilà, il y a un petit peu de moi dans certaines de ces petites animations-là. Sinon, écoute, j'essaie de penser aussi à Far Cry 6, si j'avais des easter eggs, mais tu sais, il y a beaucoup de guns, on fouillait, on creusait un peu pour trouver des armes plus intéressantes, mais j'ai vraiment rien qui me revient en tête, malheureusement. Et sinon, hein, tu sais, l'affaire que j'ai travaillé le plus fort, que personne n'a parlé, c'était l'intelligence artificielle dans Assassin's Creed Unity. Et ça, je m'en rappellerai toujours parce que j'avais passé quand même un bout de temps à essayer de faire fonctionner tout le système de détection, puis de recherche, puis tout le combat avec les ennemis. Mais le jeu était tellement cassé au launch, puis il était tellement brisé de partout que on dirait qu'il n'y a jamais personne qui s'est rendu juste à admirer tout le travail que j'avais fait sur le AI puis sur le système de conflit. Fait que je me suis toujours amusé à dire que malheureusement, personne n'a parlé des lacunes de ce que j'avais fait parce que personne s'en était rendu à l'apprécier. Alors, on continue en question avec Crowflock qui dit « Si tu avais l'opportunité de faire le design d'un nouveau jeu, que ce soit une licence existante, par exemple une suite d'un jeu, ou complètement nouvelle, laquelle serait-ce et dans quel style designerais-tu le jeu? Aucune contrainte légale ni budget. Le rêve, quoi. » Puis là, il me donne des exemples. L'exemple 1, Sonic, mais en beat'em up 3D. Alors là, je vais faire une parenthèse ici. Mais il y a quelqu'un sur Twitter, un mané, qui avait fait des mock-ups de Sonic, un beat'em up de Sonic, genre. Puis sérieusement, moi, je ferais ça. Moi, genre, c'est comme quelqu'un qui s'est amusé sur Twitter à faire ça, là. Pour vrai, je trouve ça fucking cool, tu sais, genre, ça passait comme étant, tu sais, justement, a Sonic beat'em up like Shredder's Revenge would actually be amazing. Pour vrai, moi, si Sega me dit, peux-tu faire un beat'em up de Sonic, je le ferais. Je le ferais bien correct avec ça. Je trouve que c'est une super de bonne idée. Là, il y a un problème. C'est quand je vous parle de ces affaires-là. Moi, je suis concepteur de jeux dans la vie. Fait que j'ai toujours plein d'idées qui me viennent, puis j'en parle. Puis d'un côté, je veux comme pas les donner gratuitement à ces idées-là. Puis je veux pas non plus. Là, il y en a qui vont penser à Stu, man, Fred, il aimerait ça faire un beat'em up de Sonic. Fait que c'est sûr que Tribute, il faut un beat'em up de Sonic. C'est pas ça non plus la game, là. Je vous. Fait que c'est un peu comme damn if you. Tu sais, c'est damn if you do, damn if you don't, là. Fait que, mais bref. Est-ce que je ferais un beat'em up de Sonic? Moi, je pense que ce serait fucking cool de faire un genre de Shredder's Revenge sa sauce. High Speed de Sonic. Ce serait malade. Faucis, tu dis, je suis un des rares qui a aimé Sonic Battle GBA. Ben oui, c'était bon, Sonic Battle GBA. Moi, j'ai bien aimé ça aussi. J'aimerais ça qu'on le joue un moment donné, d'ailleurs, en stream. Ce serait le fun. Mais ouais, ça serait une bonne idée. Sinon, Crowflock propose, exemple 2, un jeu sur la licence Pogo, un RPG dont vous êtes le bâton qui cherche sa saucisse avec une grande finale remplie de pâtes et d'émotions huileuses. Écoute, moi je pense que si tu pognes une marque comme Pogo, tu y vas fucking all-in, man. Tu fais le jeu de Pogo, la quête du Pogo, genre. Où est-ce que, tu sais, t'as comme... T'as différents. Tu sais que c'est comme des pogos coréens, là. Tu sais, t'as comme différents types d'armure qui sont comme des fois des petites bretzels passées dans le batter puis tout le kit. Tu peux mettre des condiments pour donner des nouveaux buffs à ton personnage et tout. Il y a toujours de quoi à faire avec ces licences-là. Il y a toujours de quoi. Mais tu sais, sinon, si je pouvais travailler sur des licences, j'en reviens toujours un peu avec les mêmes, là, parce que, comme je te dis, toutes les fois que je parle de ces affaires-là, il y a du monde qui pense, qui me contacte et qui me dit « Ah, c'est ça que vous faites, hein, c'est ça ton prochain jeu. » Mais non, c'est pas ça. Je vais pas parler de mon prochain jeu comme ça, bien sûr. Mais l'autre fois, je jouais à Jurassic Park au Super Nintendo. Puis tu sais, je me disais « Chris, si ce jeu-là était bien fait, tu sais, genre, si les séquences intérieures en first person étaient le fun, s'il y avait pas autant de gossage puis de virages en rond dehors, Chris, ça serait un bon jeu pareil, ça. Ça serait vraiment un bon jeu à refaire. Fait que moi, je me dis, moi, je ferais un remake de Jurassic Park au Super NES. Mais tu sais, où est-ce que tout marche bien? Il n'y a pas, tu sais, l'intérieur, c'est pas lent comme le Chris. Tu sais, c'est des bonnes séquences de tir. C'est pas juste des labyrinthes partout. Tu sais, c'est comme, non, tu fais du bon gameplay avec ça. T'sais, le monde extérieur, tu mènes une vraie carte qui t'aide, t'sais, des vrais objectifs clairs. Hey, ce serait bon, là. Il y aurait vraiment de quoi à faire avec ça, là, t'sais, puis ce serait on point, là. Moi, je pense que Jurassic Park au Super NES, je te remakerais ça. Pas rien que ça un temps. Moi j'aime. Avec Dom, on en parle souvent, mais moi je. Moi je ferais une suite à Star Tropics. Là. Moi j'ai comme tout un fan. Une espèce de fanfic, là, une fanfiction de qu'est-ce qui pourrait être l'histoire de Star Tropics 3. Mais qui sait, un jour, peut-être que Nintendo va m'appeler, ils vont me dire « Hey man, ça a l'air, t'aimerais ça faire Star Tropics. Peux-tu le faire, s'il te plaît? » Puis je vais le faire gratis, s'il faut. Je vais le faire gratis. Mais non, c'est pas vrai. Mais bref, moi, je travaillerais sur ces licences-là. T'sais, sinon, un jeu 100% original que je ferais, tu sais, j'aimais beaucoup la série WarioWare, mais tu sais, j'aimerais ça faire un genre de WarioWare qui explique un peu comme les bases de game design. Tu sais, c'est quoi, comment tu construis un challenge et tout, parce que dans le fond, tout WarioWare est bâti là-dessus. Mais tu sais, moi, je le ferais vraiment comme quasiment un jeu pédagogique, tu sais, de game design avec ça. Je pense qu'il y aurait de quoi à faire d'intéressant avec ça. Mais sinon, je ne donnerai pas mes meilleures idées parce que, Christy, je suis payé pour ça, tabarnane. Je ne donne pas ça gratis. J'espère que ça répond à ta question, mon cher. Et finalement, Trent Faucon. J'ai pas le son du faucon, malheureusement, tu m'excuseras. Trent. Qui demande, c'est quel type de gameplay loop qui active le plus d'addiction chez toi et qui te fait dire, bon, encore une petite game et après ça, j'arrête. Puis que ça finit plus, puis tu te couches, ça pas. Et tu te couches à pas d'heure. Écoute, il n'y a pas. Tu sais, une gameplay loop, là, ça le dit. Une boucle de gameplay, pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le fond, là. C'est comme une boucle, c'est comme un cycle que tu répètes souvent. T'sais, habituellement, comment ça passe, c'est un but. Ensuite, un challenge, donc un défi à accomplir. Et ensuite, une récompense qui va te mener à un nouveau but, qui va avoir un nouveau challenge, à une nouvelle récompense. Et ça tourne comme ça infiniment jusqu'à ce que tu aies passé la cassette. Donc, tu sais, des boucles comme ça, il y a comme le principe qu'ils appellent le Skinner Box. Là, Skinner qui était comme un... Je pense que c'était quelqu'un qui faisait du behavioral dans les années... d'un début du siècle, là, qui faisait des expériences sur les animaux, sur le renforcement positif, si on veut, où est-ce que, dans le fond, il isolait comme ses sujets dans une boîte, littéralement. Puis, il récompensait, tu sais, pour être sûr qu'il n'y ait aucun autre stimuli. Et puis, par exemple, tu sais, il y avait un rat, s'il appuyait sur un bouton, il y avait une gâterie. Fait que, tu sais, ben, le rat, il appuyait sur le bouton, puis il y avait la gâterie. Fait que, tu sais, évidemment, il rend renforcement ce comportement-là, ben, le rat, puis il y a toujours ce bouton pour avoir la gâterie. Fait que, tu sais, d'où le terme Skinner Box. C'est un peu la base un peu de comment tous les jeux maintenant sont construits. Où est-ce que, ben, on veut récompenser le joueur. Tu sais, on est plus dans un mode récompenser le joueur. Donc, on te récompense le joueur. Puis quand on récompense le joueur, tu sais, on fait pas juste dire, OK, good job, t'as monté de niveau. C'est comme, good job, t'as monté de niveau. Puis là, il y a un bout de guide qui fait pow, 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 pow. Puis là, c'est super cool. Puis là, on dit, t'as plein d'unlock, t'as plein de rewards, tu sais. Le meilleur exemple, c'est les jeux Call of Duty. À partir de Modern Warfare, qui a commencé, justement, Call of Duty 4, Modern Warfare. En tout cas, le premier Modern Warfare qui a été fait sur Xbox, qui, justement, en multijoueur, avait, tu sais, tu montais de niveau tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Puis là, maintenant, t'avais aussi tes guns qui montaient de niveau, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Puis là, t'avais genre, ah, oh, asti, là, t'as comme, tu débloques plein d'affaires sur différents personnages. Fait que tu gagnais des guns, tu gagnais des items pour tes guns, tu gagnais des bonus, en tout cas. Fait que, tu sais, tout ça, au final, c'est tout un peu comme synchronisé sur un horaire de récompense qu'on donne aux joueurs. Puis, tu sais, quand c'est bien fait, généralement, à chaque fois que tu vas jouer à ton jeu, tu vas... Tu sais, mettons que tu joues une partie de multijoueur en ligne, quand c'est bien ficelé, à chaque partie, tu vas avoir une récompense. Puis, encore mieux, tu vas toujours être sur le bord d'en débloquer une autre, tu sais. Et ça... C'est là que la cocaïne kick in et le fameux Fortnite. Fortnite le fait très bien. Tu sais, dans le fond, Fortnite, comment ça fonctionne, les récompenses, c'est que tu joues ta partie. Puis à la fin de ta partie, tu gagnes des étoiles. Puis là, avec tes étoiles, tu peux aller dans ta passe. Puis là, tu peux acheter des items selon ce que tu as. Mais tu sais, on te donne toujours un nombre d'étoiles un peu comme décousu. Fait que tu reçois 3 étoiles. Puis là, t'as des items qui coûtent 1 étoile à débloquer, des items de merde, comme genre un fond d'écran. Mais là, t'as comme genre, waouh, un nouveau personnage, mais ça, ça va coûter genre 7 étoiles. Fait que là, tu te dis, ben Chris, je viens de gagner 3 étoiles, j'ai toutes ces récompenses-là, mais si je rejoue une game, je vais pouvoir m'acheter le bonhomme. Mais là, tu joues ta game, t'as reçu 3 étoiles, il t'en manque encore une. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu rejoues une autre game, puis là, maintenant, t'es rendu à 9 étoiles. Fait que là, tu peux acheter ton bonhomme, mais là, il te reste 2 étoiles. Fait que là, t'es comme, ah, ben ok, c'est cool. Est-ce que je pourrais m'acheter avec mes 2 étoiles? Ah, ben je vais pouvoir m'acheter cette nouvelle arme-là. Ben, c'est pas une arme, là, mais cette nouvelle pioche-là. Mais là, cette pioche-là, elle coûte 3 étoiles. Fait que là, t'es obligé de rejouer une autre game pour pouvoir acheter le truc. Fait que tu sais, on te donne, dans Fortnite, on te donne beaucoup de rewards, mais tout ce que tu peux atteindre est toujours à une autre partie de l'avoir. Fait que tu sais, un peu comme les jeux, tu sais, comme qui te forcent à acheter de la monnaie, tu sais, comme Call of Duty, quand tu achètes, par exemple, le Battle Pass, ben, ça va te coûter, mettons, 12 000 points. Mais quand tu achètes des points, ça va te coûter, genre, ben, 10$ pour 10 000. Mais là, il faut que tu en achètes plus, fait qu'il faut que tu en achètes pour 15 000. Mais quand tu l'achètes pour 15 000, puis tu achètes ta passe après, il t'en reste 3 000. Fait que qu'est-ce que tu fais avec le dernier 3 000 qui te reste? Ben là, tu veux acheter d'autres choses. Bref, c'est toujours... Tout ça est très insidieux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que le système de Battle Pass, comme dans Fortnite, celui-là, moi, je trouve qu'il est rough avec moi parce qu'il m'accroche un peu comme de la cocaïne. Mais bon, dans les plus gentils, il y a Hades qui a une très bonne boucle de récompenses. Hades qui est un roguelike, mais à chaque tour, t'as tellement... Tu récoltes tellement de monnaies différentes, je ne vais pas dire currency, j'essaie toujours de parler en français, mais tu récoltes tellement d'items différents que tu as toujours de la progression sur différents axes. Fait qu'à toutes les fois que même si tu réussis pas à te rendre très loin, tu progresses sur différents axes. Fait que tu as toujours de quoi qui est récompensé. Donc ça, ça vaut la peine. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est une meilleure boucle parce qu'on t'en donne plusieurs puis on te garde accroché, mais sans nécessairement essayer de t'enligner vers dépenser de l'argent. Même chose un peu comme Vampire Survivors aussi. Le Vampire Survivors, c'est juste une boucle de overpower. Tu deviens de plus en plus overpowered, puis de plus en plus overpowered, mais tu sais, jusqu'à un point où c'est qu'à un moment donné, ben là, t'es plus capable de rien faire. Mais c'est pas grave parce que t'es genre rendu comme. T'es rendu le bullet hell toi-même. Donc voilà, moi je trouve que plusieurs boucles de progression qui vont en parallèle en même temps, comme Call of Duty, Hades, tout ce genre de jeux-là. Je trouve que c'est le meilleur modèle, mais bon, je suis quand même très facile à accrocher sur les boucles, comme Fortnite, mais pareil, je pense que c'est pas une bonne chose, il faut faire attention. Je pense que c'est ça le vrai danger pour les enfants, c'est de rester accroché là. Alors voilà, tel que prévu, j'avais dit que ce serait pas un si gros show, mais finalement j'en ai fait pour une heure pareil. Alors ça va être ça pour cette semaine. Je vous remercie encore une fois pour vos questions. C'est toujours apprécié. Si vous êtes live en ce moment en train de nous écouter et que vous êtes pas, vous followez pas la chaîne, c'est toujours apprécié de lâcher un petit follow. Ça aide beaucoup justement à se construire un auditoire sur Twitch. Même chose si vous écoutez en audio sur Apple Podcast ou encore sur Spotify, un petit 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Même chose sur Balado Québec qui héberge gratuitement notre podcast. On les remercie beaucoup d'ailleurs, très sympathique. Vous pouvez même vous inscrire à votre Patreon si vous voulez supporter leur mission de garder le podcast vivant au Québec. Et voilà, donc là-dessus, je vais essayer de survivre au WEG ce week-end pour venir vous voir la semaine prochaine encore avec un épisode. Et demain, Je l'ai comme teasé en intro, mais demain, pour les cassettes magiques, c'est un spécial Sega 32X, parce que on joue pas assez au 32X dans notre vie, puis même moi, j'y joue pas, donc soyez là, manquez pas ça. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir été là, et pour ceux qui sont là, live en direct, partez pas tout de suite, je vais jouer aux jeux vidéo live, c'est juste que j'arrête le podcast maintenant. Alors voilà, alors merci, puis à la semaine prochaine.